Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Tu es belle vient de lâcher Eva à Céline Da Costa.
C'est vrai, mais parce que je n'avais pas encore regardé réellement ce
même
matin.
La dernière semaine de la saison, vous vous découvrez encore.
C'est oui.
Et ça, c'est beau. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 1er juillet. Et il a beau être 4h58, on a beau être épuisé, lessivé, rincé par une année de boulot. On s'en fout pas mal, car c'est aujourd'hui la journée mondiale du naturisme.
Ah, quel bonheur de vivre à poil. Rien ne vaut le nu intégral.
Ah, la journée mondiale qu'on attendait, disons-le, avec le plus d'impatience. Hein. À mes côtés, je salue mes fidèles complices Eva Roch et Céline Da Costa. Vous êtes prêtes, Céline ?
Tu te doutes bien que je suis déjà à poil depuis longtemps.
Formidable. Un mot de la météo pour les textiles, comme on les appelle, non ? Sans un soupçon de dédain.
Oui. On va pouvoir rester rhabillé ce matin parce que c'est un peu couvert avec un petit peu de pluie. On verra où tout à l'heure. Cet après-midi, c'est le retour du soleil. Les orages sur le relief et température encore chaude du nord-est au sud-est surtout.
À vos côtés.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai.
4 jours qu'on ne l'avait pas vu. J'avais presque oublié son visage. 4 jours loin de nous. J'ai dû évidemment affreusement lui manquer. J'ai eu des échos. Elle se languissait tellement de moi qu'elle ne vivait plus. Telle une veuve sicilienne, elle songeait même, paraît-il, à prendre le noir.
Ouais.
Non, prendre le noir signifie s'habiller en noir pour marquer le deuil. Bref, Eva Roch est de retour.
Oui.
Eva, vous savez, c'est notre dernière semaine au 5-7. Il faut tout donner dans sa dernière ligne droite, même sur les questions aux auditeurs.
Et d'après vous, vous avez dit que c'était la journée de quoi ?
Du naturisme.
Bah alors voilà, est-ce que vous avez tenté ? Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que vous n'aimez pas ça ?
Si vous pouviez voir, chers auditeurs, la lueur de lubricité qui s'allume dans les yeux d'Eva.
C'est pas ça.
Quand
c'est
elle
parce
parle
que
de
j'ai
naturisme.
Déjà reçu beaucoup de réponses et il y en a quelques-unes qui m'ont fait hurler de rire. Donc vous continuez, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Aujourd'hui, 1er juillet, souhaitons un très bel anniversaire à Bernard Laporte, ancien joueur, entraîneur de rugby français. Il fête ses 55 ans. Vous avez fait du rugby, Eva, si je ne me trompe pas. C'est très physique. Des séquelles ?
J'ai perdu toutes mes dents.
Et c'est pas pratique.
Pratique pour ?
Pour manger.
Mais non, mais parce que pour tout le reste, ça l'est pratique.
Comment
finalement.
Oui.
Ah bah ça peut faire très mal.
Oui. Merci. Vive le sport, vive le 15 de France, vive Bernard Laporte. C'est également un 1er juillet 1804 que naissait Georges Sand, figure des lettres du 19e, esprit libre, subversif, poétique et engagé. Georges Sand, c'était quoi pour vous, Céline ?
Un mec avec du caractère, quoi. La poigne. De la poigne des poils.
Georges Sand était une femme, Céline, mais bien tentée. Vous écoutez. Deux heures d'infos saupoudrées de bonne humeur pour vivre pleinement la journée mondiale du naturisme. Mais qu'est-ce que vous faites, Céline ? Mais pas à l'antenne, quand même.
Ce matin, vous vous en doutez, c'est déjà très doux partout.
Oui, bon, bah, debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le lundi 1er juillet. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil. Il est 5h. 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 1er juillet, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
L'atmosphère doit devenir peu à peu un peu plus respirable. Fin des alertes canicules dans le nord et région parisienne, mais il fera encore très chaud sur une large partie est du pays et notamment dans le sud-est. 32 départements restent en vigilance orange. Aujourd'hui, 1er juillet, son lot de changements, un contrôle technique plus strict, des factures de gaz revues à la baisse et les loyers plafonnés à Paris. Et puis un casse-tête toujours pas résolu à Bruxelles. Les dirigeants européens ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés de l'Union européenne.
Europe 1.
Après une semaine de très forte chaleur, Météo France maintient ce matin 32 départements en vigilance orange canicule, fin des alertes sur le nord ainsi qu'en région parisienne. Mais une large partie est du pays reste concernée, de l'Aude au Bas-Rhin en passant par le Massif central, la Côte d'Azur et les Alpes. Les températures devraient continuer à baisser ces prochaines heures. L'atmosphère sera-t-elle plus respirable que la semaine dernière pour les milliers de collégiens appelés à passer aujourd'hui et demain le brevet des collèges? Les épreuves initialement prévues la semaine dernière avaient été reportées. Dans certaines villes, en tout cas, la chaleur est encore bien présente, comme l'a constaté pour Europe 1 Romain Noquet, envoyé spécial à Vauvert, dans le Gard.
Dans la chambre de Léni, à la veille des épreuves, pas de manuel scolaire ouvert, mais sa valise, prête à partir. Dans la pièce, la chaleur reste étouffante, alors pour le collégien, le report du brevet ne règle pas le problème.
Ça m'énerve du coup, ça m'énerve beaucoup, oui. Parce qu'en plus, il fera la même température à peu près, donc ça va pas changer grand-chose. Bah, je pense que ça sera un peu la catastrophe quand même. On sera trempé, on aura chaud, je pense que les stylos vont glisser des mains. J'ai vraiment envie que ça se termine.
Léni grimpe dans l'avion dès demain, sa maman Bénédicte a réorganisé le voyage. Pour elle, il fallait reporter les l'examen, à condition d'avoir pris quelques précautions.
On dit aussi que finalement le collège va fermer tout le week-end. Ça va certainement être aussi une étuve. Il n'y a pas de climatisation, il y aura des ventilateurs. Pas sûr que les conditions seront meilleures que ce qu'elles auraient été la semaine dernière.
À la piscine municipale, d'autres collégiens sont moins préoccupés par les conditions de l'examen. Stéphane est au plongeoir.
C'est pour déstresser.
Le report, c'est surtout 4 jours de rab.
Ça m'a permis de réviser là où j'avais pas révisé du tout, donc oui, ça va être du bon. Et tant pis si je crève de chaud, ça fait rien. Ça.
Les collégiens auront au moins bénéficié d'une nuit plus douce, en dessous des 25 degrés.
Le reportage de Roman Hockey. Hier, cette vague de chaleur a entraîné de violents orages dans l'Allier. En Alsace, un record de chaleur à près de 39 degrés a été relevé. En raison d'un risque de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est reconduite aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne, Annecy. Elle est levée en revanche à Paris et à Strasbourg. Aujourd'hui, 1er juillet, nouvelles restrictions de circulation. Les vignettes critère 4 sont interdites dans Paris et les critères 5 en proche banlieue. La chaleur a également entraîné une soixantaine d'incendies dans le Gard. 620 hectares ont brûlé ainsi que 6 maisons et 5 hangars agricoles. 20 personnes dont 19 pompiers ont été légèrement blessées.
Europe 1, il est 5h03.
L'impasse toujours à Bruxelles. Les dirigeants européens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés de l'UE. C'est la deuxième tentative cette nuit. Une troisième réunion est envisagée. Autre sujet de division de l'Europe, le sort des migrants. La France et l'Allemagne dénoncent l'attitude de l'Italie après l'arrestation de la jeune capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, arrêtée pour avoir accosté de force à Lampedusa pour débarquer 40 migrants secourus en mer. Et puis journée d'action des personnels des EHPAD. Aujourd'hui, un rassemblement est notamment prévu devant le ministère de la Santé à Paris. Des actions sont aussi prévues en région. Ils dénoncent le manque de moyens et les conditions de travail très difficiles.
Nous sommes le 1er juillet, date qui apporte son lot de changements.
Un contrôle technique plus sévère pour les vieux diesels. Les tarifs réglementés de gaz d'Engie baissent de 6,7%. 4 millions de foyers concernés. Les allocations chômage progressent légèrement, 0,7%. C'est aussi le retour du plafonnement des loyers à Paris intramuros. Les contrats de location devront respecter un barème bien précis. Maud Descamps.
Désormais, le montant de chaque loyer est plafonné et fixé en fonction du quartier dans lequel le logement se trouve, mais aussi du nombre de chambres, de l'année de construction du bâtiment et bien évidemment de la surface. Par exemple, si vous louez un appartement de 50 mètres carrés, ancien, avec 2 chambres dans le quartier de l'Opéra, le propriétaire du logement ne pourra pas vous demander plus de 1 250 € de loyer mensuel hors charge. Autre exemple, si vous louez le même appartement mais du côté de Belleville, un quartier un peu plus populaire, le loyer ne pourra pas excéder 900 €. Vous pouvez vérifier le plafonnement de votre loyer sur le site internet de la préfecture de Paris. Si vous constatez qu'il est trop élevé, vous pouvez alors saisir la commission départementale de conciliation. Le propriétaire pourra ensuite être sanctionné à hauteur de 5 000 €. Il pourra néanmoins y avoir quelques dérogations pour les appartements qui présentent des attributs exceptionnels, comme par exemple une grande terrasse ou encore une vue sur la tour Eiffel.
Maud Descamps à Hong Kong, heure cette nuit entre manifestants et forces de l'ordre qui ont utilisé gaz lacrymogène et coups de bâton. De jeunes manifestants avaient dressé une barricade sur une route lors des célébrations du 22e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et puis un portrait sculpté du jeune pharaon Toutankhamon sera mis aux enchères jeudi à Londres. Une tête vieille de 3000 ans, d'une trentaine de centimètres, estimation 4,5 millions d'euros. Une vente à laquelle s'opposait l'Égypte qui a tenté en vain d'annuler la vente et de rapatrier l'œuvre.
Et si on passait, Jérôme, au journal des sports? À la une cette semaine, coup d'envoi du Tour de France.
Et oui, samedi, départ de Bruxelles. Bruxelles qui fêtera son chouchou. Eddy Merckx, on célèbre cette année le cinquantenaire de la première victoire du Belge sur la Grande Boucle. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, était hier soir l'invité de la grande émission en mensuel du service des sports d'Europe 1. Tous les mois, un grand nom du sport face aux auditeurs. Sans détour, Christian Prudhomme a répondu à une question sur le dopage dans le cyclisme et notamment sur le Tour de France.
Le cyclisme a sans doute triché avant les autres, plus que les autres, mais il n'est plus le vilain petit canard. En revanche, le sparadrap du dopage nous colle effectivement à la peau, parce qu'il y a des affaires, et puis aussi parce que l'aspect redondant des questions sur le dopage fait que, naturellement, on en parle régulièrement. Nous sommes les organisateurs, nous ne faisons pas les règles, nous ne sommes pas jugés partis. Et ça, c'est un élément essentiel pour que la vérité sorte, même si la vérité ne fait pas toujours plaisir, ou si elle peut vous entacher à certains moments. Mais nous sommes justement dans la vie, et on ne va pas faire croire qu'on n'est pas dans la vie, que la vie sur Terre, mais comme chacun le sait, elle est faite de saints. et de parents de vertu, quels que soient les lieux. Ça n'est évidemment pas vrai. Dans les disciplines où il n'y a jamais de tricheurs, on peut quand même s'interroger pour savoir si on les cherche.
Et sur ce Tour de France à partir de samedi, c'est le coureur Warren Barguil qui arborera le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Le Breton de 27 ans a remporté hier le titre lors des championnats de France de la Foissière près de Nantes.
La Formule 1 est un final comme rarement on en a vu hier en Autriche.
Le jeune néerlandais Max Verstappen sur Red Bull remporte ce 9e Grand Prix de la saison à l'issue d'un final spectaculaire, dépassant le jeune monégasque Charles Leclerc sur Ferrari dans les derniers mètres et au prix d'un dépassement limite-limite. Il y a même eu contact entre les deux monoplaces. Aux grandes dames de Leclerc, les commissaires ont jugé la manœuvre licite et validé le succès de Verstappen. A noter le français Pierre Gasly, 7e sur Red Bull.
Pas mal pour un français. Ah oui, c'est rare. Il est Formule 1. Mais je suis cruel, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai.
On termine avec le chiffre du jour.
3 et de 3 succès en 3 rencontres à l'Euro féminin pour les Bleus du basket 71-65 contre les Suédoises à Riga en Lettonie. Les joueuses sont ainsi directement qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera jeudi à Belgrade et probablement contre les Belges. Ces Belges qui avaient battu les Françaises l'année dernière au Mondial. En revanche.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Europe 1.
Debout les copains, continue avec le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, souvent, quand vous rêvassez le soir dans votre lit, votre cerveau vous hurle.
Je dois m'en aller. Il faut tout oublier.
Surtout si vous êtes dans les années 80. Changer de vie, Niagara l'a chanté, mais certains, eux, l'ont fait pour de bon. Chaque matin, Europe 1 leur tend le micro dans Fallait oser. Aujourd'hui, rencontre avec Jean-Louis, un ancien joueur de rugby reconverti dans le travail des personnes handicapées. Mais tout de suite, un point sur la météo, Céline, s'il vous plaît.
Oui.
Des nuages et des éclaircies pour ce matin.
Oui, c'est vrai. C'est...
J'attends le jour où vous me direz
finalement,
non, c'est
il y a un
faux.
Peu tout. Non, mais il y a un peu tout. Et nuages et éclaircies. Alors, c'est même bien couvert dans le sud-ouest et près de la Manche, mais plutôt sec. Pour les autres, on pourrait effectivement avoir une petite averse orageuse dans la matinée. Le soleil reviendra largement cet après-midi avec encore un risque d'averse pour la moitié sud surtout et des orages sur les reliefs. Orages qui pourront être forts avec de la grêle. Côté température, c'est encore chaud du nord-est au sud-est. Avec toujours 32 départements en vigilance orange canicule, ça devrait évoluer à 6h. Ça va rester chaud dans le sud-est toute la semaine avec 30 à 38 degrés. Pour les autres, on revient à des valeurs de saison, 25 à 30 degrés, 26 à Paris aujourd'hui, on respire.
Très bien, voilà une bonne nouvelle Céline. Eva Rock, c'est une journée mondiale qui vous tient à cœur aujourd'hui.
Oui, j'espère que vous allez respirer puisque c'est la journée mondiale du naturisme.
Et dans toutes les parties de votre corps on respire.
Voilà, alors on se demande si vous êtes pour ou contre, si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de tester. Alors pas franchement, du côté des éditeurs, ouais. Non. Jérémy par exemple, il nous dit très peu pour moi, je suis plutôt pudique et j'ai une peau fragile, peur de cramer là où ça ferait mal. Et Olivier, il dit aussi peur du coup de soleil mal placé et après de la pelade. Je vous lis le message tel qu'il est. Oui, et autre message de Taco qui nous dit même devant mon chat, je ne me mets pas à poil, donc jamais. Ouais. Je préfère encore marcher à cloche-pied ou ne plus me laver les cheveux de toute ma vie plutôt que de faire du naturisme. On n'allait pas jusque-là.
Mais je pense que les naturistes ne sont pas encore réveillés à 5h10. Ouais. Mais à mon avis, dans quelques minutes, peut-être. Nous aurons des témoignages.
Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous cajole, qui vous caresse avec des pétales de rose, mais qui parfois aussi vous flagelle avec des tresses de bambou. Histoire de vous secouer, oui, car changer de vie, on en rêve tous. Mais au moment de se lancer, souvent on se dégonfle. Pas eux. Chaque matin, Europe 1 part à la rencontre de ceux qui l'ont fait. Aujourd'hui, c'est disponible d'ailleurs en podcast, le fameux podcast L'Envol, hein, produit par Europe 1 Studio. Ce matin, on vous raconte l'histoire de Jean-Louis Ribes, un ancien demi d'ouverture du Stade Toulousain, bien connu des amateurs d'Ovalie. C'est là qu'il a appris les premières valeurs qui ont guidé ensuite toute sa carrière.
Fallait oser.
Quand on vous met un ballon dans les doigts, chose que je n'avais pas eue jusqu'à l'âge de 11 ans, et comme m'a dit, avec le ballon, il faut que tu passes la ligne là-bas, et quand tu as passé la ligne, tu as marqué. Et qu'entre-temps, tu as droit de plaquer les autres, je me suis dit, ça, c'est pas un sport, ça, c'est un jeu, c'est un truc incroyable. Et en plus, vous jouez avec les autres, vous voyez, vous n'êtes jamais tout seul. Vous avez les gros, les petits, les maigres, vous êtes 15, vous êtes obligés de jouer tous ensemble. Et si vous n'arrivez pas à vous intégrer et à vous faire reconnaître, ça ne marche pas. Au fond, ça s'est imposé à moi sans que je le sache. Et après, évidemment, je me suis appuyé là-dessus.
Mais Jean-Louis Ribes n'est pas resté dans le rugby, il a choisi de faire carrière dans l'industrie pendant 20 ans.
Oui, puis jusqu'au jour où on lui a demandé de s'intéresser aux travailleurs handicapés et sa rencontre avec un homme qui était en train de perdre la vue a tout changé.
Il avait connu une vie professionnelle très très chaotique et il avait été blackboulé en permanence en lui disant « oui, tu vas y arriver, on va t'intégrer », mais ça n'allait jamais au bout. Et j'ai ressenti quelqu'un en face de moi qui était exactement comme moi. Il voulait prendre sa place dans cette société qui ne voulait pas de lui. Et vous avez là un sentiment d'injustice qui s'empare de vous. Et je suis sorti de là en colère, si vous voulez. Voilà, je me suis dit, c'est pas bien de faire ça. C'est bien d'en parler et c'est pas bien de rien faire.
Et Jean-Louis Ribes a créé sa propre entreprise, une entreprise adaptée qui emploie aujourd'hui 1000 personnes, en majorité des personnes handicapées.
Et alors pour découvrir toute son histoire, ben c'est facile. Vous pouvez vous abonner à L'Envol, c'est sur Apple Podcast par exemple. Et un nouvel épisode est disponible tous les lundis.
Europe 1.
Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui tenait à être en ce 1er juillet. La première émission à fêter la journée mondiale du reggae. Une journée qu'à Europe 1, on a essayé de célébrer loin des clichés éculés sur la Jamaïque. Pas vrai, Céline ? Mais Céline ?
Qui n'en veut ?
Non, oui. Oui, non, le reggae.
Qui n'en veut ?
Mais le reggae, c'est une musique. Bien, à suivre. Dernière ligne droite avant les vacances. Pour beaucoup d'entre vous, ça signifie énormément de pauses café tout au long de la journée. Mettez des étoiles dans les yeux de vos collègues en leur parlant de l'actu culture et high-tech grâce à lundi les bons tuyaux. Nos experts vous parlent notamment ce matin d'Harry Potter avec deux nouveaux jeux vidéo sur mobile, une expo sur la célèbre muse de Picasso, la photographe Dora Maar, et Eva Rock qui nous offrira son ultime coup de cœur Netflix de la saison. Et puis, c'est un docteur qui opère encore à l'ancienne.
Il pétrit à la main.
Mais Marcel Ichoux arrive pour votre point santé ce matin. Il nous parlera de cette fameuse et inquiétante lumière bleue qui émane de nos écrans. Faut-il en avoir peur ? Comment s'en protéger ? Marcel vous explique. En attendant, qu'est-ce qu'on écoute, Céline ?
J'en ai rien à foutre !
Très bien, vos désirs sont les ordres. Voici I Don't Care, Justin Bieber et Ed Sheeran sur Europe 1. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. You take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Stay. 'Cause I don't care, don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I don't care, c'était Justin Bieber et Ed Sheeran sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'atmosphère devrait redevenir respirable aujourd'hui, fin des alertes canicules dans le nord et en région parisienne, mais il fera encore très chaud sur une large partie est du pays, notamment dans le sud-est. 32 départements restent en vigilance orange. En raison d'un risque de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est reconduite aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne et Annecy. Elle est levée en revanche à Paris et à Strasbourg. Aujourd'hui, 1er juillet, nouvelle restriction de circulation. Les vignettes de critère 4 sont interdites dans Paris et les critères 5 en proche banlieue. Enfin, journée d'action des personnels des EHPAD aujourd'hui. Un rassemblement est notamment prévu devant le ministère de la Santé à Paris. Des actions sont aussi prévues en région. Ils dénoncent le manque de moyens et les conditions de travail très difficiles.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 1er juillet. Et Céline, ouvrez grand vos narines, sentez cette odeur.
Ah, tu sais, on aurait dit un truc de chaussette.
Non, un truc de cheval. C'est l'heure des pronostics hippiques. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Clairefontaine et mon pari gagnant sera le 103 Footballisto. Déjà lauréat l'an dernier d'un quintet sur les haies de Compiègne, il a depuis été orienté sur le steeplechase, une discipline beaucoup plus exigeante. Désormais bien réglé sur les gros obstacles grâce au savoir-faire et la minutie de son entraîneur Michael Serror, cet excellent sauteur me semble être assez mature pour pouvoir remporter son premier succès en steeple. Alors notez bien, pour cet après-midi à Clairefontaine, réunion 1 dans la première course, le numéro 3, Footballisto.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, et à l'heure où nous ouvrons habituellement la séquence coulisses coquins de cette émission, nous allons commencer à ouvrir en cette ultime semaine l'album souvenir de DLC. Une saison placée sous le signe insolent de la win, malgré, avouons-le, quelques bémols, quelques regrets, l'implication des auditeurs via Twitter et le hashtag Europe 1. Personnellement, j'avais alerté très tôt la rédaction sur le fait qu'entre 5h et 5h30 du mat, il se trouverait assez peu de gens pour répondre aux questions loufoques des baroques. J'avais raison, Céline a souvent dû mitonner.
Vos réactions continuent d'arriver sur Twitter, hashtag Europe 1. Et on n'en lit pas parce qu'il n'y en a pas.
Sur un plan plus personnel, maintenant que la saison touche à sa fin, je réalise aussi à quel point vous allez me manquer. Et finalement, je regrette d'avoir pris durant l'année ces jours de congé qui m'auraient permis de passer un peu plus de temps avec vous. D'autant qu'avec son dynamisme et son talent, mon remplaçant Julien Pierce était à deux doigts parfois de me voler la vedette.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui met dans votre vie des paillettes et même dans vos larmes.
Bon, je suis pas dedans là.
Allez, un peu d'alcool à 90 sur le fion. Sors les doigts du cul.
Et oui, on embrasse Julien qui a fait le taf, comme on dit. Enfin, je tenais également à remercier mes collègues pour leur abnégation. Travailler avec moi, surtout sous mes ordres. J'en ai conscience, les amis, ce n'est pas une sinécure. Mention spéciale à Céline Dacosta, qui a toujours su répondre au présent, se pliant à toutes mes exigences. Vraiment toutes. Oh là 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 là. Mais quand est-ce que je vais aller pisser, moi, dans tout ça? Céline. Ah, merci.
Oh! Ouh, donc, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon.
Merci beaucoup Céline. Encore bravo Céline pour votre abnégation, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de la presse aujourd'hui les amis, Kim Jong-un, un Big Bang et une fièvre. Le Figaro revient sur la rencontre entre les présidents américains et coréens et titre « En Corée du Nord, Trump tente de forcer l'histoire ». Aujourd'hui en France évoque la fermeture de 400 établissements scolaires situés en zone rurale et les conséquences sur l'organisation de la carte scolaire. Quant à la fièvre, elle est immobilière, à en croire les échos. Le quotidien économique écrit en une « La fièvre immobilière gagne tout le pays, 3% d'augmentation à Paris, 1% sur l'ensemble du territoire en un an ». Mais vous, mes intarissables galopins, qu'avez-vous pioché dans les journaux ce matin, Eva Rock?
Quelques notes de Dr. John, décédé le 6 juin dernier, pour illustrer un article de 3 pages paru dans Libération et consacré à la Nouvelle-Orléans. Une ville qui vit au rythme de la musique, mais aussi des difficultés sociales, paupérisation, instabilité sociale et vagues d'homicides poussent en fait les jeunes musiciens à quitter la ville de Louisiane, pendant que certains, quand même, font le choix de rester en prônant la non-violence et surtout en perpétuant l'esprit spontané de ce berceau musical. Vous savez que c'est ici que toutes les musiques ont droit de citer, hein, des brass bands traditionnels à la Bones. Alors la Bones, c'est un cocktail,
c'est, quoi, hein,
c'est un cocktail hyper local de rap et de dance music. C'est très, c'est très électro. Et malgré les dégâts humains et matériels provoqués il y a 14 ans par l'ouragan Katrina, c'est ce que raconte l'article, eh bien, la ville ne semble pas connaître de point mort. Et tout ça malgré des difficultés, parce que la Nouvelle-Orléans récolte finalement peu le ruissellement financier de sa créativité. Vous ajoutez à cela la criminalité, et voilà comment de nombreux talents ont décidé de fuir la ville, un peu trop étroite pour leur ambition. Et puis il y a ceux qui restent, comme Currency. Currency, c'est un rappeur très populaire qui a créé son propre label et un collectif, Jet Life, dont fait partie Kelly Green. C'est une jeune DJ. Elle est interviewée et elle raconte avoir grandi à Baton Rouge, c'est à 130 km de la Nouvelle-Orléans. Elle y a appris la musique dès l'âge de 6 ans. Elle a d'ailleurs joué 2 fois au Carnegie Hall avec son orchestre. Et puis depuis, elle a lâché l'archer pour devenir l'une des DJ les plus bookées de la ville. Mais elle dit, c'est triste de se dire que tu dois partir de chez toi si tu as du succès. La scène est importante ici, mais les gens sont nombreux à rejoindre d'autres plus massives comme celles d'Atlanta, Miami, New York ou Los Angeles. Mais il y a quand même un signe d'espoir à la Nouvelle-Orléans. D'abord parce que la musique continue de vivre. Et puis parce que Live Nation, vous savez, c'est une immense société internationale qui organise des concerts et autres festivals dans le monde entier. Eh bien, elle vient d'ouvrir à la Nouvelle-Orléans un bureau et une salle de spectacle. Sans doute parce que c'est ici que continuent d'émerger des tendances musicales. Le rap est très influent là-bas. Et puis la ville exerce toujours un magnétisme total, comme le raconte le journaliste. Alors si vous ne savez pas où partir en vacances, bah moi je sais.
Et vous savez pourquoi Baton Rouge est ma ville préférée aux États-Unis ?
Allez-y.
Mais parce que c'est celle qu'on prononce mieux que les gens qui y vivent eux-mêmes.
Ah, ils n'arrivent pas à le prononcer, les Américains.
Baton Rouge, Baton Rouge. Ah oui. Bah, oui, nous, on sait dire Baton Rouge.
Ah oui, et
ça,
exact.
Ça en impose.
C'est l'idéal pour ma ville, quoi. Enfin, c'est pour moi, cette ville. Parce qu'au moins, pour une fois, je prononcerai un mot en anglais.
mieux que les Américains eux-mêmes.
J'ai trouvé, voilà.
Céline.
On va rester dans la musique, puisque ce matin, je reviens sur ce concert incroyable qui s'est déroulé au Stade de France samedi soir. Un concert dingue où 1038 musiciens, pour la plupart amateurs, ont repris des standards du rock. Vous en avez entendu parler.
Ah oui, j'avais vu l'affiche. C'était le plus grand concert du monde.
Oui, une idée folle qui a vu le jour en Italie.
Le plus grand groupe du monde, pardon.
Voilà, exactement, le plus grand groupe du monde. Une idée folle qui a vu le jour en Italie il y a 4 ans. C'est Fabio Zaffagnini qui en a eu l'idée. Alors au départ, c'était pour faire venir dans sa ville les Foo Fighters, un groupe de rock américain. Il a réussi d'ailleurs un défi fou avec pour l'édition française Philippe Manœuvre comme parrain. Et c'est Éric Bureau qui nous en parle dans Aujourd'hui en France, parce que figurez-vous qu'il a ressorti sa basse rangée dans son étui depuis 25 ans pour tenter sa chance à ce casting de Rock in 1000. C'est le nom du concert. Il a été pris, vous vous en doutez, c'est quand même plus pratique pour écrire l'article en plus, parmi 5000 candidats quand même. Et il nous raconte comment il a ensuite répété, alors d'abord seul, les 19 classiques dévoilés sur le site dédié au concert, où on trouve partitions et tutos vidéo. Et puis comment il a, grâce à la page Facebook d'autres participants, rejoint une répète dans un studio surchauffé à 15 jours du début du concert. Les répétitions générales arrivent jeudi avant le concert. Les bassistes sont au centre, entourés des batteurs, des guitaristes, et les chanteurs et chanteuses sont devant. Deux jours de répète, deux jours de rencontre avec un père et son fils, cet élève de 24 à 62 ans de l'école de musique de Mériel dans le Val d'Oise, un conseiller municipal de Neuilly-Plaisance ou encore une quadra toulonnaise, Karine, qui a commencé la guitare il y a tout juste un an. Ça vous donne un peu une idée du mélange incroyable que cet événement a suscité. Tout ce beau monde dirigé par Alex Deschamps, le chef d'orchestre, et une oreillette en guise de métronome pour vous indiquer quand c'est à vous de jouer, pour éviter que ce soit un peu le bazar. Dernière répète samedi après-midi, et puis c'est l'heure, le stade se remplit, 50 000 personnes venues vous applaudir, c'est la folie. Et là, ça chante pas, mais il y a plein d'images sur Internet. Des images complètement dingues du concert, ouais. Ça donne vraiment envie d'y être. Tout le public chante, danse. Bref, autant vous dire que l'année prochaine, moi j'y serai. Et je me demande même si je vais pas me mettre à la guitare pour être dans la fosse. Vous voyez,
ouais, ça vous laisse une petite année.
Mais oui, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France.
Si vous trompez, merci beaucoup, Céline.
Si vous trompez dans un accord au milieu de tous les autres.
Oui, c'est vrai que ça s'entend pas. Oui, mais si tout le monde fait le même raisonnement, ça s'appelle la stratégie du passager clandestin en économie. Ensuite, à la fin, c'est le foutoir.
Il est fort.
Oui, c'est vrai. Jérôme Lacroix, arrêtez de m'envoyer des fleurs, ça ne sert plus à rien. C'est la fin de la saison.
Pour vous parler ce matin de
pour les primes de fin de vacances.
Oui, c'est ça. C'est vrai,
de
ça.
De fin de vacances. Vous aurez une prime de fin de vacances. Ouais. Là, je ne l'oublierai pas.
Je vous parle ce matin de l'homme qui fait la une de Midi Libre. Ce matin, le quotidien racontait, alors je cite le titre de une de Midi Libre, l'incroyable odyssée de ce Montpelliérain de 45 ans. C'est Laurent Balesta et trois compagnons d'aventure qui vont passer un mois sous l'eau, dans un caisson au large de Marseille, avec l'objectif d'explorer les grands fonds marins. Un défi fou, écrit Midi Libre dans son article. Ce défi qui démarre aujourd'hui la somme de près de 20 ans de travail pour donc Laurent Balesta, qui est un photographe sous-marin très réputé et un plongeur très expérimenté. Alors d'abord, cette incroyable installation, leur habitation, ce caisson pendant 28 jours. Un caisson donc de 5 mètres carrés. Ils vont être à 4 là-dedans, hein. Un caisson pressurisé, alors qui restera à la surface de l'eau, mais avec une pression 13 fois supérieure à l'air ambiant. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, dans une partie de ce module, utiliser une tourelle ascenseur, descendre en fait quasiment à volonté, parce que comme c'est pressurisé, ça permet de descendre à volonté et rapidement, sans avoir à en passer
les
par
paliers.
De longs moments de paliers de décompression exactement. Et ils vont pouvoir descendre jusqu'à 120 mètres de profondeur. Ce qui est compliqué dans la plongée, en fait, c'est pas de descendre, C'est de remonter. C'est là en fait que c'est long et que ça prend beaucoup de temps. Alors ils passeront leur nuit, notamment dans une toute petite station à pressurité, donc je vous le disais, 5 mètres carrés à 4. Ils respireront là-dedans de l'air composé en très très grande majorité d'hélium, avec les quelques inconvénients dus à l'hélium, comme par exemple
la
une température. Alors voilà, exactement, une température de quelques degrés à peine et une voix nasillarde, un peu une voix de canard, voilà comme ça. Alors,
on ne peut pas les faire en duplex en interview, on bien se foutre de leur gueule.
Pas sympa. Alors qu'ils vont faire des choses exceptionnelles. C'est une mission scientifique.
Bien sûr.
Que vont-ils chercher jusqu'à 120 mètres de profondeur? Eh bien, c'est justement.
Des oursins. Ils pourraient nous ramener quelques oursins.
Ah non, mais c'est pas.
Là. C'est la saison.
Ils pensent déjà à son. Ce barbecue. C'est d'aller explorer cette Méditerranée profonde, des écosystèmes, des récifs auto-construits par les organismes eux-mêmes, des algues calcaires, des forêts de corail, des mollusques, des éponges calcaires, des jardins secrets, comme aime les appeler Laurent Balesta. J'ai adoré la formulation. Une mission qui comporte aussi son lot de dangers. Pour éviter de se perdre, par exemple, un fil d'Ariane reliera la tourelle ascenseur à la barge flottante. Oui, les plongeurs seront tous équipés d'un radar et d'un GPS, à sécurité maximale quand vous descendez à ces profondeurs-là. Départ aujourd'hui donc de cette aventure singulière. Et pour en savoir plus, beaucoup plus même, vous pouvez réécouter l'excellent « C'est arrivé demain » de Patrick Cohen, l'émission d'hier.
De l'excellent Patrick Cohen.
Dont l'un des invités était Laurent Balesta.
Vous leur demanderez de mettre quelques bulots aussi sur leur plateau. Merci beaucoup Jérôme. Le pressing referme ses petites portes. Demain, nous continuerons de feuilleter notre album Souvenir au programme un chapitre intitulé « Eva Rock, l'oreille absolue de Jazz Magazine ».
Tu pourras me sortir Mambo 5. Dun, 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 dun. Chihuahua.
Chihuahua. Soyez là.
Alors que moi, je ne confonds pas Earth, Wind & Fire.
Non, pas du tout. Jamais.
Et il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Savoureux réveil à l'écoute d'Europe.
Et il est 5h29, Mathieu Noël.
J'allais entamer mes heureux cookies, mais on me signale que c'est l'heure de faire un point sur la météo. Effectivement, c'est plus intéressant pour les auditeurs. La chaleur résiste dans le sud-est.
Oui, commençons par ce qui nous a préoccupé ces derniers jours, les températures élevées. La canicule se poursuit dans le sud-est avec des valeurs cet après-midi comprises entre 30 et 38 degrés. D'ailleurs, il va faire encore très chaud entre le nord-est et le sud-est. Mais si je vous parle du sud-est, c'est parce que là, ça va se maintenir apparemment toute la semaine. 32 degrés à Strasbourg encore aujourd'hui, 36 à Lyon. Partout ailleurs, on peut dire, on revient à des normales de saison. Pour cet après-midi, 25 à 30 degrés. Il en fera 23 à Lille, 26 à Paris, 28 à Bordeaux. Ça va rester plus frais près des côtes de la Manche, en 18 à 21 degrés en moyenne. Et puis ce matin, on va de 12 degrés à Caen, en passant par 19 à Cognac, jusqu'à 27 en ce moment à Nice. Côté ciel, c'est couvert un petit peu partout ce matin. On aura des orages cet après-midi, surtout sur les reliefs. Puis le soleil va revenir assez largement partout ailleurs.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et vous chatouille de l'autre, ce qui nous oblige parfois à certaines acrobaties.
Tout en bas, 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 tout en bas. C'est étrange, hein.
À suivre, on passe en moyenne 3 heures par jour devant eux. Nos écrans d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones émettent tous une lumière bleue pointée du doigt par de plus en plus d'études médicales. Quel impact a vraiment cette lumière bleue sur notre santé? Comment s'en protéger? Le docteur Ichou nous répond. En attendant, si vous constatez la moindre gêne oculaire...
Ou des petites nouilles plates dans ses selles.
Ou des petites... Oh. Bref, n'hésitez pas à consulter, quoi.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 1er juillet. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Haro sur les voitures trop polluantes dans la capitale. À partir d'aujourd'hui, 800 000 véhicules avec des vignettes critères 4 et 5 n'ont plus le droit de rouler dans Paris. Coup d'envoi des épreuves du brevet des collèges ce matin. Elles avaient été reportées à cause de la canicule. Et puis le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande des explications au préfet après l'évacuation d'une manifestation écologiste à Paris. Des militants avaient été aspergés de gaz lacrymogène.
Europe 1.
L'air est un peu plus respirable, en tout cas dans une bonne partie de la France. 32 départements restent tout de même en alerte orange canicule dans l'Est et dans un grand tiers sud-est. Le mercure devrait encore grimper autour des 40 degrés dans le Gard. En région parisienne, la circulation différenciée est levée. En revanche, nouvelle étape de la lutte contre la pollution, la fin des vignettes critères 4 dans Paris. En tout cas de 8h à 20h du lundi au vendredi, les 5 et 6 étaient déjà interdites. Reportage de Jean-Jacques Herry.
Benjamin a préféré prendre de l'avance, car il le
sais, sa Peugeot 307 devra maintenant rester au garage. Depuis ce matin, la petite diesel de 2004, classée critère 4, est trop vieille pour rouler à Paris.
Ça fait à peu près un an qu'on est au courant sur l'interdiction des critères 4. Donc j'apprends à me déplacer un petit peu d'une autre manière. Ça faisait déjà un moment que j'utilisais beaucoup moins ma voiture sur Paris à cause des bouchons notamment. Donc on se déplace un petit peu autrement. Au final, on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça besoin d'une voiture quand on est en ville. Après, si je ne me trompe pas, l'interdiction court jusque 20h le soir. Donc je pourrais la sortir le soir en cas de besoin.
L'interdiction est effectivement levée le soir à 20h ainsi que les week-ends. Mais la restriction inquiète pourtant certains commerçants. Wally est épicier. Il se déplace beaucoup avec son fourgon pour s'approvisionner en région parisienne. Son véhicule est classé critère 3. Pour l'instant, il n'est pas concerné, mais il a peur de l'être à l'avenir.
Parce que vont enlever le casque, c'est un business, c'est tout, quoi, voilà. C'est commercial, ça, monsieur, c'est tout.
Et si, par exemple, on dit un jour, les trois sont interdits?
C'est interdit, interdit, la loi, c'est la loi, hein.
Donc il faudra changer de voiture.
J'ai pas le choix.
Et de conclure avec un sourire un peu forcé, si ça continue, je vais devoir investir dans une petite charrette.
Jean-Jacques Herry pour les contrevenants. Pas de verbalisation avant 2021. Si elle est levée à Paris et Strasbourg, sachez que la circulation différenciée est tout de même reconduite à Annecy, Lyon et Villeurbanne. Et puis à noter également parmi les changements de ce 1er juillet, le durcissement du contrôle technique pour les diesels et l'encadrement des loyers à Paris.
Nicolas Sarkozy affirme que la vie politique partisane est définitivement terminée pour lui.
Oui, l'ex-président était hier soir l'invité du journal de 20h sur France 2 pour la sortie de son livre Passion. Il a également estimé qu'Emmanuel Macron avait eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de droite qu'il pouvait être une réponse. Un Conseil européen crucial jusqu'au bout de la nuit à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union doivent s'entendre sur les principaux postes de l'exécutif européen après l'échec d'il y a une semaine. Pour l'instant, les négociations sont dans l'impasse et on semble s'orienter vers un nouveau sommet.
Europe 1, il est 5h33.
La polémique enfle autour des militants écologistes aspergés de gaz lacrymogène vendredi à Paris.
Oui, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, demande un rapport au préfet sur les modalités de cette évacuation controversée. Des images de l'intervention des forces de l'ordre ont d'ailleurs suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Chloé Triomphe.
Sur ces images, un petit groupe de manifestants est rassemblé au milieu de la chaussée, assis bloquant la circulation. L'ambiance n'est pas tendue, les militants écologistes scandent des slogans, les CRS tentent tout de même de les disperser, quitte à les traîner de force sur le trottoir, mais aucun coup n'est échangé, aucune insulte ne fuse, on est loin de l'affrontement violent. Mais quelques instants plus tard, les CRS utilisent une autre méthode. Ce même petit groupe qui refuse d'obtempérer est aspergé de gaz lacrymogène à quelques centimètres des visages par des policiers qui longe le groupe calmement, presque méthodiquement. La scène a choqué, elle a été partagée durant tout le week-end sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions en chaîne dans la classe politique. Hier, c'est Christophe Castaner qui est intervenu, mais cette fois pour demander des explications au préfet de police sur cette évacuation controversée, une demande de rapport administratif dont le contenu permettra de mesurer si cela mérite ou non de saisir l'IGPN, la police des polices.
Chloé Triomphe, incident hier soir avant un spectacle de Dieudonné dans Lyon. Un homme a foncé sur la scène et a blessé légèrement quatre personnes qui étaient en train de la monter. Apparemment, il redoutait surtout un spectacle bruyant sans savoir qu'il s'agissait de Dieudonné.
Le mot historique n'est pas trop fort. Donald Trump a quitté Séoul après sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Oui, ils se sont vus dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, mais surtout le président américain a fait quelques pas en Corée du Nord, une première qui laisse sceptique côté démocrate ou encore une séance photo plutôt qu'une réelle avancée vers la dénucléarisation. Et puis au Japon, les navires baleiniers ont quitté ce matin le port de Kushiro dans le nord du pays. C'est la reprise de la chasse commerciale à la baleine après 31 ans d'interruption. Au ministère de l'Agriculture, on considère que les baleines sont finalement des ressources marines comme les autres poissons.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zeleny, fabuleuse journaliste qui forme avec Céline Dacosta le double inversé de Véronique et Davina. À savoir qu'elles aiment bien prendre des douches ensemble, mais faire du sport avant, ça, c'est une autre histoire.
J'ai vu un nombre de gens faire du jogging, ça me sidère ça. Vers 10 du mat, t'as pas envie de courir, non, quand tu fais ça?
Ah, moi, j'ai pas envie de courir, jamais, hein, donc...
Bon, les filles, on se secoue un peu. Voici votre coach personnel, un peu bourrin, mais efficace.
Il y a des petits minous qui ont de la chance.
Oui, 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 mais la douche après le sport avant, Jérôme. Voici le journal des sports. Jérôme Lacroix.
Petits minous, tu sais, un intervalle régulier.
Et je risque de les ressortir, c'est mon engagement, je le ressortirai une fois par jour jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine.
C'est fou, c'est une conspiration.
Le journal des sports, Jérôme, à la une. L'heure du dernier carré.
Les demi-finales finale du mondial féminin de foot, c'est à partir de demain, sans les Françaises, voilà, c'est dit. Les Américaines seront opposées aux Anglaises demain et mercredi soir, Suède, Pays-Bas. Alors, deux constats à la lecture de ces affiches. D'abord, une domination européenne, un 3 nations sur 4. Et puis, Simon Rubin, on voit que c'est le fruit de formations précoces.
Il y a un point commun aux quatre pays présents en demi-finale, c'est la place du sport dans le milieu scolaire et universitaire. C'est très vrai aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, où on constate vraiment qu'il y a une culture sportive qui est très implantée, notamment dans les parcours étudiants. Les Américaines, elles ont toutes bénéficié des infrastructures universitaires pour s'entraîner quand elles étaient plus jeunes, les salles de musculation, les coachs de haut niveau. Idem pour les Anglaises. Et donc on voit que la réussite de ces pays vient de loin, sont des nations où les viviers de joueuses potentielles sont exploités dès le plus jeune âge et ça fait la différence à long terme, ça permet d'avoir des équipes de haut niveau très homogènes et sont évidemment des pistes de réflexion pour la Fédération française.
Simon Rubin, le foot ce matin, c'est aussi Adrien Rabiot, le milieu de terrain en fin de contrat avec le PSG qui devrait s'engager dans les prochaines heures avec la Juventus arrivée hier à Turin. Il doit passer la visite médicale ce matin et pourrait s'engager dans la foulée.
Un nouveau manager pour les Bleus du vélo.
Thomas Voeckler est le nouveau sélectionneur, mais maintenant il faut dire manager, c'est la nouvelle appellation. Pourquoi l'ancien... parce qu'ils ont voulu changer, mais figurez-vous que oui, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dit hier qu'il fallait maintenant dire manager. L'ancien maillot jaune du Tour, l'un des plus populaires hein, quand il était sur le vélo, prend la place de Cyril Guimard. Objectif à venir pour Voeckler, les Mondiaux en septembre et les JO 2020.
Mon travail, ça sera vraiment de réussir à créer une équipe, un esprit d'équipe. Je commence à découvrir depuis quelques minutes ce que c'est que d'être manager de l'équipe de France Pro. En revanche, être coureur cycliste professionnel, je sais ce que c'est, je sais exactement à quel moment le coureur est disponible pour échanger et à quel moment il ne faut pas l'emmerder. La tâche ne me fait certainement pas peur, en revanche, elle me motive énormément.
Et Thomas Voeckler, on peut vous l'annoncer ce matin, sera le consultant d'Europe 1 pour le Tour de France qui démarre samedi depuis Bruxelles. Super classe. Le Breton Warren Barguil arborera dans le peloton le maillot bleu-blanc-rouge. Il a été sacré hier champion de France. Et puis les filles de l'équipe de France de basket sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro en Lettonie après leur victoire hier en fin de premier tour 71-65 face aux Suédoises.
En cette dernière semaine, Jérôme, vous ne vous contentez pas du minimum. Incroyable. C'est aujourd'hui deux personnalités du jour.
Pour le prix d'une. C'est l'une des informations de la nuit. La superstar du basket américain, Kevin Durant, 30 ans, quitte Golden State pour Brooklyn. Il évolue à Golden State depuis 2016 et une autre recrue pour Brooklyn, c'est le meneur Kyrie Irving. Tous les deux sont à
Brooklyn. Attendez, Jérôme, on fait un petit point pour ceux qui ont arrêté de suivre la NBA il y a quelques années, comme moi qui étais fan. Brooklyn, c'est quoi l'équipe de Brooklyn ?
Brooklyn, New York. C'est-à-dire, c'est quoi l'équipe de Brooklyn ?
Il rejoint Brooklyn pour jouer aux Knicks ?
Non, c'est pas les Knicks, c'est l'autre club de New York, c'est les Nets.
Les Nets ?
Ouais. Bah oui.
En basket ?
Bah oui, pourquoi ?
Mais je ne savais pas qu'il y avait les Nets en basket. Bon, excusez-moi, je vais découvrir
Brooklyn.
Tout ça.
C'est l'autre
d'accord,
club de New York.
Eh bien,
c'est
je ne le connaissais pas. Merci. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Athlète magnifique. Performance inouïe sur le terrain comme en dehors. En cette dernière semaine, l'heure est peut-être d'ailleurs venue, Jérôme, de saluer toutes vos partenaires de l'année.
Toutes sont en arrêt maladie pour épuisement.
Oh, ne soyez pas prétentieux non plus, Jérôme.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures sur ce pont étroit qui surplombe le journalisme et le music hall.
Moi j'ai toujours peur quand je passe sur un pont de toute façon.
Oui, bon, à suivre, jeux vidéo, expo à ne pas manquer. Inutile de perdre du temps à farfouiller sur le net. Tous les bons plans culture du moment sont dans lundi les bons tuyaux. Et puis une raison supplémentaire pour se désintoxiquer de nos smartphones et tablettes. La lumière bleue qu'ils émettent serait nocive. Mais dans quelle mesure ? Comment s'en prémunir ? Les réponses dans votre point santé avec qui, Céline ?
Et voici Marcel Ichou. Marcel, oui c'est Marcel Ichou.
A tout de suite.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et on fait un point sur la météo du jour, Céline. Le soleil brille encore largement ce matin dans le sud-est.
Oui, pour les autres, c'est un petit peu plus mitigé. Nuages éclaircis, ondées parfois orageuses. Ciel bien couvert dans le sud-ouest, du mieux pour cet après-midi avec le retour du soleil sur la moitié nord. Les orages vont se concentrer surtout sur les reliefs, hein, sur le massif central, les Alpes, le Jura, et seront parfois forts avec de la grêle quant aux températures. Alors elles sont douces hein, déjà ce matin, mais ont quand même bien baissé, 12 à 18 degrés. Vous avez mieux dormi cette nuit, non ? J'ai mieux dormi quand même.
Oui, hein mieux.
Oui, enfin, il y avait des gens qui faisaient du bruit en bas de chez moi. J'ai moins bien dormi, mais ça n'a rien à voir avec la météo. Ouais.
À part près de la Méditerranée, où on a encore 27 degrés à Nice en ce moment. Cet après-midi, 25 à 30 degrés. Ça reste encore très chaud du nord-est au sud-est, avec 30 à 38 degrés. On devrait interdire aux gens de faire du bruit comme ça.
Mais oui.
Oui.
Le dimanche soir.
C'est un vrai scandale. Ouais.
On va mettre une petite plaque ici. Ici, vie, oui.
Eva Rock. Ouais.
On parle du naturisme. Ah, c'est la journée mondiale. On vous demande depuis ce matin 5 heures si vous êtes pour, contre, si vous avez déjà testé.
Est-ce que les naturistes sont enfin debout ?
Ah. Oui, j'en ai un. Mais attendez, j'en ai un. Il s'appelle Stéphane. Il adore faire du tout nu chez moi. Chez moi, non, chez lui, en l'occurrence.
Chez vous.
Chez
d'accord.
Vous,
d'accord. Vous venez de nous révéler en direct le nom de votre nouvel amant, Stéphane. Donc,
à, la plage, à la plage, autorisé ou pas, c'est tellement libératoire, dit-il. Et puis, il y a le regard des autres. Quel plaisir de les voir se fixer sur ses beaux yeux verts, nous a-t-il dit, avec trois petits points de suspension.
Vous êtes tout excité. C'est très gênant, c'est très embarrassant, il va avoir une frétille d'excitation.
Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Continuez à réagir, merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre point santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Et ce matin, c'est de nos petits yeux que nous parlons. Ces lumières bleues émises par les LED que l'on retrouve partout, sont-elles, oui ou non, nocives?
Oui. Cette lumière bleue que l'on retrouve dans les lampadaires, les écrans, les ordinateurs, les téléphones portables et même les phares de voitures peut être toxique. C'est leur faible coût et leur faible consommation qui en ont permis la généralisation aux dépens des éclairages classiques et des halogènes. Mais derrière ces avantages économiques se cachent des risques pour la santé que l'ANSES a déjà pointé depuis 2010.
Alors, quels sont concrètement ces risques ?
Essentiellement des risques au niveau des yeux, mais aussi des troubles du sommeil. Cette lumière peut endommager les cellules de la rétine et créer des dégâts importants. À cela s'ajoute celui d'une vision de près sur les écrans qui modifie l'anatomie de l'œil, notamment chez les enfants, et on assiste réellement à une sorte d'épidémie de myopie qui se développe avec l'utilisation massive des écrans. En dehors de ces problèmes de vision, la lumière bleue, comme la lumière en général, peut modifier le cycle du sommeil, surtout le soir avant de se coucher. Donc, en cas d'insomnie, la première mesure à prendre, c'est de limiter l'utilisation des écrans avant de dormir.
Pas de Game of Thrones, Eva, juste avant de vous coucher.
Ah oui, je vous confirme.
Eh ben non, bah non mais oui. Vous faites l'inverse. Alors, vous dites ça à nos auditeurs. Non, vous mentez
plus,
à la France.
Non, je ne mens pas à la France. En plus, si. C'est le combo Game of Thrones plus lumière bleue. Je peux vous dire, vous ne dormez pas du tout.
Ben voilà, vous ne dormez plus.
J'ai
bravo,
trop peur.
Bravo. Merci, Marcel Ichoux. On vous retrouve tous les jours à 5h40.
Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez la dernière semaine de Debout les copains. Goodbye, my lover. Je dis goodbye, my lover. Goodbye, my friend, à Céline Dacosta et Varrock, sans préciser qui est qui.
Ah, le cochon.
À suivre, je vous invite dans le monde merveilleux d'Harry Potter. Grâce à un jeu vidéo sur votre mobile qui va vous faire oublier Candy Crush le long de vos trajets en métro. Et puis Eva, peu de visages auront autant marqué Picasso.
Les deux frères Bogdanov
hein. Non, Dora Maar, une artiste à laquelle le Centre Pompidou consacre une rétrospective qui vaut l'aller-retour à Paris. On en parle, mais d'abord, prenons ce lundi par le bon bout. En musique, voici Antoine Ely, La Rose et l'Armure sur Europe.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose, quand les regards l'éclaboussaient, elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire alors on s'est allongé. Avec ma rose j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin la route appelle alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque secondes, sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure. Je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures, jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
La rose et l'armure, c'était Antoine Elie sur Europe
1. Il est 5h47. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'atmosphère redevient enfin respirable, fin des alertes canicules dans le nord et en région parisienne, mais il fera encore très chaud sur une large partie est du pays, notamment dans le sud-est. 32 départements restent en vigilance orange. En raison d'un risque de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est reconduite aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne, Annecy. Elle est levée en revanche à Paris et à Strasbourg. Aujourd'hui, nouvelle restriction de circulation. Les vignettes de critères 4 sont interdites dans Paris, les critères 5 en proche banlieue. Et puis nous sommes le 1er juillet, date qui apporte son lot de changements. Vous le savez, un contrôle technique plus sévère pour les vieux diesels. Les tarifs réglementés du gaz d'Engie baissent de 6,7%. Les allocations chômage progressent de 0,7%. C'est aussi le retour du plafonnement des loyers à Paris intramuros. Les contrats de location devront respecter un barème bien précis.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 1er juillet. Et tout de suite, nous filons à Clairefontaine pour les courses hippiques. Or, comme le dit si bien David Doucan, il y a deux manières de gagner aux courses. L'écoute des pronostics de José Coves.
Ou la chatte.
Oui, mais on va s'en remettre au premier. Bonjour José.
Tous les deux sont bons. On fait un saut par l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Exactement. 18 spécialistes nous attendent au départ de la première course, disputée sur les gros obstacles. Mes 5 favoris. Numéro 2, Razango. Son expérience et ses titres font de lui un premier choix. Fobalisto, le 3, vient d'afficher sa forme alors qu'il retrouve une piste qu'il affectionne. Élégant du Chesnay, le 8, a tout montré à Dieppe en s'imposant avec la manière. Vic Royal, le 14, a fini 5e de cette épreuve en 2018, doit pouvoir mieux faire. Starkov, le 4, porte la griffe de Guillaume Macaire et en obstacle, c'est un label. En cas de défaillance, il y en aura peut-être. Il faut penser au 5 Razik en acier trempé, au 12 Défi d'Oudéry, très souvent placé, et enfin au 7 Bonora. Tout est réuni pour qu'il donne sa pleine mesure. Mon ticket pour cette première course vers 13h50. D'abord le 2, le 3, le 8, le 14 et le 4, et ensuite le 5, le 12 et le 7.
Mais José, Starkov le 4 est le représentant d'une grande marque en obstacle, ça ne se refuse pas.
L'entraîneur de Starkov est Guillaume Macaire. En une saison, il est recordman d'Europe du nombre de victoires en obstacle. À son palmarès, tous les grands classiques dans la spécialité. C'est une marque déposée. Mathieu, un Macaire au départ, c'est un contrat de confiance et une assurance tout risque.
Mais évidemment, je vous l'avais dit, José.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saff pour les jeux vidéo et pour les expos, l'électron libre du service culture d'Europe 1. Sa vie est un roman. Elle est une icône du Paris by Night, de tous les vernissages, de toutes les sauteries. Ses soirées se commencent généralement ainsi.
Bah oui, où sont les hommes ?
Et se terminent généralement comme ça.
4 seins et 3 jambes.
Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour Céline, bonjour, bonjour à tous.
Diane, parmi les expos à voir cet été, il y en a une qui met en lumière Dora Maar, la muse de Picasso. Une rétrospective lui est pour la première fois consacrée au Centre Pompidou.
Absolument Mathieu, et c'est justice quand même, car évidemment, eh bien, c'est Picasso qui a pris toute la lumière hein, dans cette histoire. Or, ce que montre justement cette exposition, eh bien, c'est que Dora Maar était elle aussi une artiste. D'abord photographe de mode, elle a travaillé pour Lanvin, elle était partout dans la presse. Et puis là, on découvre dans des diaporamas, en effet, toutes ces photos en noir et blanc de mannequins, puis ces clichés de rue à Barcelone et Paris, là où elle saisit plutôt la misère que le glamour. Et quand elle rencontre Picasso au milieu des années 30, eh bien, elle va réaliser une série de portraits magnifiques du peintre.
Et on voit aussi comment ils se sont nourris l'un l'autre.
Oui, 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 absolument. Elle, la photographe, va apprendre à Picasso comment utiliser les techniques de la photo en peinture. Alors ça donne une série de portraits de Dora Maar à l'encre de Chine qui bave comme ça un peu sur le verre utilisé comme un négatif photo, ce verre. Et Picasso va commencer à la peindre comme on le voit avec ce portrait très picassien d'une femme qui pose, rêveuse, amoureuse. Damaris Amao a monté l'exposition.
On a choisi un portrait qui est moins tragique que La femme qui pleure, hein, qui est habituellement associée à Dora Maar, beaucoup plus pensive, lumineuse. On reconnaît ses doigts peints, ce vernis et ses ongles longs qu'elle portait, qui étaient assez singuliers pour l'époque. C'est le Dora Maar du début de l'idylle. Voilà, une Dora Maar solaire.
Et c'est Dora Marancorel qui va contribuer à faire de Guernica une icône, celle qu'on connaît, le chef-d'œuvre absolu de Picasso, en photographiant toutes les étapes de sa création.
Cette toile, elle devait très rapidement être diffusée par le moyen de cartes postales. Il fallait aussi que la toile soit publiée dans les journaux, dans les revues. Et donc, Dora Mar va vraiment assurer la diffusion de l'œuvre de Guernica dans le monde entier grâce à ses photographies. Elle existe, cette toile, à cause de la photographie, on pourrait dire.
Et puis alors, elle ne sera plus que cette femme qui pleure quand Picasso la quitte après la guerre. Là, elle va se mettre à peindre. C'était son rêve de jeunesse, peindre des paysages du Luberon dans la maison que Picasso va lui laisser. Des paysages à la limite de l'abstraction, on ne sait plus trop où est la terre et le ciel. D'ailleurs, je ne sais plus très bien moi-même ce que je dis puisque j'ai failli dire le ciel, la ciel et le terre. Bon, bref.
La ciel et le terre, ça aurait été même. Mais vous savez, c'est la licence poétique, tout est possible. Yann Chenouda, Dora Maar, à découvrir
de votre indulgence.
Moment au centre Pompidou jusqu'au 29 juillet. Vous nous avez donné envie d'y aller.
Ah
franchement,
ouais,
moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Dora Maar. Voilà.
Ah oui, ça vaut le détour.
C'est intéressant. Oui. Merci beaucoup, Diane Chenouda. On passe au numérique à présent et aux jeux vidéo. Clément Le Saffre, vous avez pu tester la sensation du moment, le jeu Harry Potter sur mobile.
Oui, je suis sûr que tout le monde ici se souvient de Pokémon Go, le jeu qui permettait de capturer avec son téléphone des Pokémon dispersés dans nos rues. Eh bien, Harry Potter Wizards Unite, c'est exactement le même principe, mais dans l'univers d'Harry Potter, on y incarne un sorcier chargé de récupérer tous les personnages, les objets et les animaux magiques du monde d'Harry Potter, disséminés dans notre monde à nous, les moldus, ceux qui ne connaissent pas la magie, suite à un mauvais sort. Alors pour les retrouver, il faut donc se balader dans la rue, les yeux rivés sur son téléphone qui fait office de baguette magique pour scruter la carte à la recherche d'objets qui, eux, sont indiqués par des points. Alors le jeu est vraiment très fidèle à la saga Harry Potter, ça c'est vraiment sympa, mais malheureusement, il tient un peu trop à mon goût de l'album Panini 2.0. Tout ce qu'on récupère prend la forme d'autocollants qu'on collectionne donc, mais sans vraiment s'attacher à quoi que ce soit, contrairement à Pokémon Go avec ses Pokémon en 3D dont on pouvait prendre soin. Personnellement, moi j'adore Harry Potter, j'ai lu les livres, j'ai vu tous les films, mais je me suis lassé assez vite du jeu. Après, il est gratuit, donc ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil pour vous faire votre avis, et puis surtout ça plaira aux plus jeunes.
Alors Clément, vous avez un deuxième jeu qui lui devrait plaire aux petits et aux grands.
Oui, c'est Crash Team Racing Nitro Fueled. C'est un jeu de course façon cartoon, dans la veine de Mario Kart, sauf que les personnages sont issus cette fois des jeux Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot, vous vous en souvenez peut-être, c'est un héros culte des jeux d'aventure des années 90-2000, un personnage déjanté à mi-chemin entre la souris et le renard. Ce jeu, c'est un remake de Crash Team Racing qui était sorti en 99, mais tout a été revu de A à Z. Les 31 circuits sont plus travaillés, le gameplay est plus fouillé, les cartes sont plus détaillées. Globalement, le contenu du jeu n'a donc pas grand-chose à envier à Mario Kart. Pour moi, les deux jeux sont vraiment complémentaires. Mario Kart, ça reste le jeu de course le plus complet, le plus accessible du genre, mais il ne se renouvelle plus beaucoup depuis quelques années. Alors que Crash Team Racing, lui, apporte un grain de folie et surtout le jeu est plus difficile, plus exigeant. N'espérez pas, comme dans Mario Kart, remporter une course en étant 8e à l'avant-dernier tour, ça c'est plus possible. Dans Crash, il faut vraiment maîtriser le pilotage, il y a un vrai challenge et c'est très appréciable.
Et si c'est appréciable, c'est vous qui êtes apprécié. Eva Rock, sur nos écrans.
Sur Netflix, Family Business, la nouvelle production française pour la plateforme américaine. Et j'avais hâte de découvrir les aventures de la famille Azan qui sont menées par le père, Gérard, en l'occurrence Gérard Darmon, qui veille depuis la mort de sa femme sur sa tribu et sur sa boucherie. Sauf que le commerce va très mal et que la famille est quand même un petit peu au bord de l'explosion. C'était sans compter le fils, Joseph, et son goût pour l'entrepreneuriat. Enfin, sauf que ça nouvelle idée est quelque peu limite.
Qu'est-ce qui se passe? Ça, vous pouvez nous expliquer?
Le cannabis va être légalisé.
Bah oui, bien sûr, tout le monde sait que le cannabis va être légalisé un jour. Et
non, alors... non, tu crois que tu te rends pas compte, c'est pas un jour, c'est là. Le ministre de la Santé va légaliser tout le bordel.
Et si on se positionne, frère? C'est du pognon.
Mais si on se positionne tout de suite, mec, c'est folie. Très balèze, c'est très balèze.
Mais c'est ça ton idée géniale? C'est de devenir dealer?
Mais c'est pas dealer, ça va être légal. Donc, putain, je l'ai l'idée, frère, pour la boucherie, c'est bon, je l'ai l'idée. Ok, vous êtes prêts? La boucherie Azan devient la bûcherie Azan.
Joseph, incarné par le génialissime Jonathan Cohen. Alors, va-t-il convaincre son père, sa sœur, excellente Julia Piaton? Si vous ne connaissez pas cette comédienne, vous allez avoir une révélation. La grand-mère, qui est jouée par la drôlissime Liliane Rovert, qu'on a vue dans 10%. Et puis, ses meilleurs amis, est-ce qu'il va aussi les convaincre de se lancer dans ce commerce? Alors, réponse au bout de 6 épisodes, qui sont marqués évidemment par quelques rebondissements, et l'arrivée étonnante, mais déterminante, de Enrico Macias. Les personnages, pour tout dire, hein, son certain un peu caricatural. Il a fumé des joints, une comacias, c'est une scène mais dantesque avec Gérard Darmon. Alors, ils sont caricaturaux ces personnages, mais c'est quand même le propre de ce genre de comédie. Hein. La fin qui laisse la possibilité d'une saison 2 est loufoque comme le reste. Hein. C'est une farce devant laquelle on rit. Les comédiens sont parfaits. Quant au sujet sur la légalité du cannabis, rebaptisé la Pastra Weed par la grand-mère, est évidemment pas abordé avec sérieux, au point d'ailleurs que la série n'aurait sans doute jamais vu le jour en dehors d'une plateforme comme Netflix. Je n'imagine pas une seule seconde une chaîne de télé produire une série comme ça. J'ai regardé ça avec plaisir, quelques grands éclats de rire. À vous de vous faire votre jugement, votre propre jugement.
Mais
c'est sur Netflix. J'ai regardé
en entier,
les 6 épisodes. Ça tient tout. Après, je vous dis, c'est une saison 2 qui est ouverte. Voilà, j'étais presque un peu déçue. J'aurais bien voulu que ça se termine de façon un peu.
C'est fait pour que vous regardiez la saison 2.
Exactement.
Merci.
Oui, évidemment.
Merci, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Diane, un dernier mot.
Oh les filles.
Merci.
5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacostel, journal 6h02.
François Geffrier.
C'est pas Céline. C'était tout pourri.
5h57, Mathieu Noël.
Un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un ciel assez couvert ce matin.
Oui, un petit peu partout. Bien couvert dans le sud-ouest. Nuages éclaircis pour les autres. Avec un risque d'ondées orageuses. Un petit peu de vent d'ouest hein, aussi sur la moitié nord. C'est lui qui régule la température. On lui dit merci. Soleil en revanche dès ce matin. Merci vent d'ouest. Soleil dès ce matin sur les Pyrénées. La région PACA, le sud de la région Rhône-Alpes et la Corse. Cet après-midi, le soleil va revenir largement de la Bretagne, Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes en passant par la région parisienne. Il reste présent près de la Méditerranée, principalement sur les côtes. Pour les autres, c'est plus mitigé. Nuages, éclaircies, petites averses et des orages qui vont se concentrer sur les reliefs et qui pourront localement être forts avec de la grêle.
Et il continue à faire très chaud dans le sud-est aujourd'hui.
Oui, et même du nord-est au sud-est, mais le sud-est, ça va continuer toute la semaine. 30 à 38 degrés encore en moyenne aujourd'hui, partout ailleurs. On peut le dire, on revient à des températures de saison, 25 à 30 degrés, l'en fera 23 à Lille, 26 à Paris, 28 à Bordeaux. Ça reste plus frais près des côtes de la Manche, comme depuis le début de l'épisode caniculaire, hein, 18 à 21 degrés. Et puis ce matin, on va de 12 à Caen, en passant par 16 à Orléans, 19 à Cognac, 21 degrés à Toulouse, jusqu'à 24 encore à Montpellier, et 27 même pour la maximale ce matin à Nice.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.